Vous allez voir que on va continuer à discuter au sens propre et la question que évidemment on a envie de poser à nos deux réactants, puisque c'est comme ça qu'on a voulu les poser, c'est de dire ben, et vous, donc ce que nous raconte Sylvie là, elle nous dit je raconte pas une histoire, mais enfin elle nous raconte quand même une belle histoire malgré tout, elle le raconte. Et deux questions, est-ce que ça ressemble aux choses que vous vivez chez vous, et deuxièmement, est-ce que vous avez cet appui de la recherche là qui vient, et si vous l'avez pas, comment vous vous débrouillez avec ça? Donc Caroline, peut-être raconter à la fois comment tu réagis à ce qu'elle dit, puis nous raconter ton histoire à toi, qui est faite aussi de choses qui vont ressembler un petit peu à ce qui a été dit.
Je vais peut-être déjà présenter rapidement le groupe de réflexion que j'ai monté avec deux collègues au collège Loup Blazer à Montbéliard. Et puis après, j'ai noté au fur et à mesure, en fonction de ce qui a été dit par Sylvie Mousset, des choses qui ressemblent ou qui ressemblent pas justement à notre expérience. Donc rapidement, moi je suis enseignante en histoire-géographie, donc depuis un certain nombre d'années, pratiquement que en éducation prioritaire. Et on a traversé un moment assez difficile au collège Loup Blazer, il y a 2 ans de cela, où, contrairement à l'expérience qui a été évoquée là, on avait pratiquement une absence de la direction. Les chefs d'établissement qui ont pas mal démissionné et qui ne nous donnaient plus vraiment de cadre. Et jusqu'aux élèves qui avaient pris le pouvoir. Donc on était dans une stratégie de survie. Et suite à la rencontre de Patrick Picard et d'un colloque sur l'éducation prioritaire à Poitiers, l'idée nous est venue, m'est venue avec deux collègues qui étaient à ce colloque, de se dire il va falloir qu'on se prenne en charge nous-mêmes et qu'on crée peut-être un lieu où on va se retrouver et parler de ce qui nous pose problème, de la difficulté qu'on avait à ce moment-là d'être en classe avec nos élèves. C'était devenu un réel souci, même pour des profs qui jusque-là n'avaient jamais vraiment eu de problème de comportement avec leur classe, et on arrivait jusque-là à faire cours. Donc on s'est retroussé les manches, mais pas avec la reconnaissance ni le soutien de la direction. Il a fallu batailler pour avoir un créneau, où on parlait hier d'avoir les clés de l'établissement, pouvoir se réunir sur un créneau où on nous laisse une salle de libre et où on nous permet de rester un petit peu plus tard. Donc on s'est réunis, et tout ça en tant que bénévole, quoi. C'était pour nous, pour se soutenir, mais pas du tout du travail payé. Donc on a créé avec Céline Durupti et Céline Passacchi, qui sont mes deux collègues au collège, on a créé un groupe où on se retrouve pour échanger à partir de vidéos qui sont extraites du site Néopass Action. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc Patrick va peut-être le montrer. Donc qui met en scène des enseignants en train de faire cours, généralement des néo-titulaires qui sont en situation difficile ou qui rencontrent certains problèmes de métier. Et ces vidéos nous parlaient vraiment, parce que pour nous, on avait l'impression de se reconnaître, même si on n'était pas la plupart. Hein, dans ce collège, il y a très peu d'enseignants néo-titulaires, donc on est tous à peu près une dizaine d'années de carrière. Donc, mais ça nous parlait vraiment. Hein, on voyait les difficultés qu'avaient ces enseignants-là, retrouvé un certain écho chez nous. Donc, on part à chaque fois dans ce groupe de vidéos et qui permettent de pas non plus partir de vidéos de nos propres collègues en difficulté, mais plutôt d'autres collègues, et à partir de là d'échanger, de finalement en arriver à échanger sur notre propre métier à nous, mais sans être complètement, impliqué, même sur le plan affectif. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui a été important pour qu'on puisse arriver à échanger, ça a été de mettre un cadre à nos échanges. Donc on a réfléchi ensemble à un contrat de confiance, donc on n'a pas été sponsorisé par aucune marque, mais on s'est dit, il va falloir pour qu'on puisse libérer la parole et en même temps qu'on soit pas dans la discussion de, je sais pas, de café, qu'on aille loin, un peu loin dans les échanges et qu'on parle vraiment du métier, il va falloir qu'on se donne un cadre. Donc on s'est créé un contrat de confiance qui permet de ne pas être dans le jugement, parce qu'on n'est pas là pour se juger, pour se dire bah tiens, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs dans ce collège, mais plutôt se dire bah tiens, il y en a qui rencontrent des difficultés, souvent c'est les mêmes d'ailleurs qu'on a dans les mêmes classes. Jusqu'à maintenant on était seuls dans nos classes, on se le disait pas. Et puis là, on se rend compte que, en fait, le problème que un tel a avec telle classe, eh ben, d'autres enseignants l'ont aussi. Et on va pouvoir échanger là-dessus et se dire, bah, tiens, comment moi est-ce que je fais pour essayer de solutionner ce problème. Donc, ce contrat de confiance, il nous oblige à une certaine à de la bienveillance, à ne pas juger les autres, à une certaine confidentialité des échanges. On en a parlé aussi tout à l'heure. On a imposé de ne pas avoir à rendre de compte à la direction sur ce qui se dit dans nos groupes. Parce qu'au début, bon, faut quand même que je précise, hein, donc la direction a parlementé longtemps avec nous pour pouvoir nous autoriser à faire ça, parce qu'il y a toujours un côté suspicion des enseignants qui se réunissent tout seuls. On a peur un peu aussi que, quelque part, ça soit aussi une marque de rébellion et qu'ils complotent. Donc on a réussi à imposer ça, mais il y a eu des tentatives pour que la principale adjointe y participe quand même, ou après d'autres personnels. Mais bon, on a quand même réussi à tenir bon. Nous, ce qu'on voulait, c'était être entre enseignants, entre CPE aussi, en tout cas qu'il n'y ait pas de rapport hiérarchique. Après, je pense que ça dépend des contextes hein, aussi, mais pour nous, c'était important.
Il y avait un COPSI aussi qui a travaillé avec vous.
Voilà, alors le COPSI s'est rajouté aussi, est venu après, et lui, qui a été une ressource essentielle par la suite. Donc nous, on n'avait pas de chercheurs, là, hein, pour le coup, qui nous aidaient. Mais ce conseiller d'orientation psychologue a une vraie présence dans l'établissement, une vraie réflexion et une proximité avec nous qui fait qu'il a aussi donné un cadre théorique à nos échanges au départ. Et ça nous a beaucoup aidé aussi à comprendre le fonctionnement de nos élèves, des ados. Il y a eu tout un apport même en psychologie qui pour nous a été essentiel, parce que faut le dire hein, aussi, les profs de collège sont très très peu formés, voire pas du tout dans tout ce qui est connaissance des ados. Enfin moi, ayant fait histoire-géo, j'ai été formée que à ma discipline histoire-géo, mais jamais au reste. Donc, du coup, pour nous, ça a été presque une découverte, en fait, de plein de choses. Et donc, ce COPSI est une ressource essentielle, effectivement, dans nos échanges. Donc, on est passé à, j'ai envie de dire, à du travail collectif. Et puis, donc, ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. Là, pour cette 3e année, le groupe évolue. Et il y a des demandes des collègues qui changent. En tout cas, ce groupe nous aide à tenir bon, à se renouveler, à innover aujourd'hui. Et cette année, les collègues ont envie de partir sur autre chose, parce qu'on connaît quand même pas mal par cœur les vidéos de Néopass. Donc, on a besoin d'aller sur autre chose. On a besoin de plus de contenu. Donc, on se lance dans un travail plus spécifique sur l'aide aux élèves. Et cette fois-ci, c'est nous qui allons aller nous filmer. C'est nous qui allons aller nous voir en cours. Bon, on le fait déjà depuis un petit moment. Mais aller nous voir en cours sur cette thématique spécifique de l'aide aux élèves. Comment on les aide? Pourquoi on fait comme ça? Et est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Même avec l'idée d'aller interroger les élèves sur la manière dont ils perçoivent les aides qu'on essaye de leur donner. Et dans le but aussi de lancer un partenariat là avec la recherche et avec Patrick Rayou, qui lui serait d'accord pour travailler et nous accompagner sur cette thématique de l'aide aux élèves dans les catégories défavorisées.
Sur la question dont tu parlais, hein, c'est-à-dire la durabilité du projet, est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que les choses ont bougé? Sylvie tout à l'heure parlait du fait que voilà comment les choses se pérennisent, comment c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que désormais vous avez un soutien différent de la direction? Est-ce que cet appui par la recherche, tu penses qu'il va pouvoir amener quoi?
Pour ce qui est de la durabilité, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce qui fait que ça a duré et que les collègues ont continué et ont besoin de ça, c'est-à-dire que là on n'a pas encore eu le temps de se réunir depuis le début de l'année. mais demande au fait quand est-ce que la prochaine réunion, on a réussi à la placer après les vacances. Ce qui fait durer, je pense, c'est aussi la manière d'animer. Je pense qu'on réfléchit beaucoup avec mes collègues sur comment on va faire pour que nos collègues soient contents de ce qu'on y fait, comment est-ce qu'on va répartir la parole aussi, comment est-ce qu'on va veiller à ce que les échanges restent bienveillants. Il y a aussi la préparation, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps de préparation avec mes deux collègues sur, maintenant on fait aussi un travail du où en est la recherche sur le thème que l'on va aborder. On le faisait moins au début parce que bon, on a essayé, puis là, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps à préparer, à se retrouver ben, toutes les trois chez nous pour préparer ça. Donc ça fait durer aussi. Ça...
Parce que Sylvie parlait tout à l'heure du fait qu'entre son expérience 1 avec les préfets et l'expérience 2, en fait, les préfets changeaient un petit peu la nature de leur travail. C'est-à-dire qu'ils, d'un travail centré sur les élèves, finalement, dans la création du collectif, ils se mettaient à avoir un travail, une part de leur travail centré sur le collectif ou la mise en collectif des enseignants. Est-ce que toi, tu vois un parallèle avec ça? C'est-à-dire que, est-ce que du coup, toi, tu te sens... Et tes collègues, hein, avec Céline et tout, est-ce que vous vous sentez plus exclusivement prof ou alors est-ce que vous êtes en fait une espèce de prof hybride qui est en train de muter vers un prof qui a un bout de quelque chose envers le travail des autres et on verra avec le travail qui sera exposé dans les tables rondes suivantes que ces questions-là, hein, de la mutation de l'activité de l'enseignant, du passage de l'enseignant à formateur, voilà, comment tu peux nous préciser ça?
Je pense que ce travail-là, déjà, ça a nourri un sentiment de compétence qu'on avait un peu perdu. On avait l'impression qu'on n'était pas compétent et que, bon, être enseignant en classe difficile, c'est compliqué, on se plaignait beaucoup. Mais finalement, ça nous a permis de se dire, mais c'est quand même pas si mal ce qu'on fait dans nos classes. Après, c'est compliqué, ça marche pas toujours. Mais voilà, ça a nourri ce sentiment de compétence et ça nous a... Enfin, moi, en tout cas... Du coup, ça m'a permis de me dire, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant de me lancer dans un master de formation de formateur, parce que bah, animer un groupe et pour qu'il dure, je pense qu'il y a besoin aussi d'avoir ce contenu théorique. Enfin, je m'en rends compte maintenant. J'étais moins...
Heureusement que vous vous êtes lancé sans réfléchir à tout ça.
Voilà. Et
parce
puis
que
après...
sinon, vous ne l'auriez peut-être pas fait. Mm-mm. Mais du coup, en marchant, vous vous êtes dit, mais en fait, aider les enseignants... à développer, alors Sylvie dirait peut-être leur pouvoir d'agir, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Il faut qu'il y ait une mutation. Tu penses que les compétences que tu as envie d'aller chercher maintenant dans ton travail de masterisation, c'est plutôt des compétences de quel ordre? Si, encore, c'est un travail qui est en cours, hein, mais tu dis j'ai besoin de quoi dans cette formation personnelle qui fasse que je sois mieux en capacité.
Bah, c'est un besoin de contenu théorique après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la recherche, qui sont rarement en lien, je trouve, mises en lien avec ce que nous on fait dans nos classes. À part quelques expériences qu'on découvre quand on vient à l'IFE comme ça, mais sinon, j'ai l'impression qu'on est dans des sortes de vases clos dans nos établissements et qu'on n'a pas forcément ces liens de fait. En tout cas, au quotidien, on parlait aussi de temps. On a peu de temps aussi à consacrer à la recherche, à la lecture. On en parlait aussi avec les collègues de Besançon. Et ce groupe d'échange, c'est une pause qu'on se donne, encore une fois, sur un temps libre. Mais c'est une pause qui nous permet de prendre du recul, un peu comme quand on vient à l'IFE aussi maintenant avec
les collègues. Parce que du coup, dans votre académie, et puis on va demander l'avis de Marc L'Express sur comment lui ça se passe dans son établissement, ces questions-là. Ce que peut-être il faut que tu précises, c'est que du coup tu commences à être, enfin votre groupe de commence à être reconnu par le service de formation, par le rectorat, et que du coup vous avez commencé des interventions dans d'autres établissements. Tu peux raconter?
Du coup, alors oui, on est passé à, on commence à former d'autres équipes d'enseignants à l'échange sur les pratiques professionnelles. Alors, on a commencé dans un collège qui est passé en REP Plus à Besançon. Pour l'instant, il y a la difficulté de la mise en place du REP Plus et des fameuses heures pondérées qui fait que c'est pas forcément évident de trouver un temps où on va permettre aux enseignants de se rencontrer, sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été prévues dans cet établissement. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive parce que les enseignants sont demandeurs. En tout cas, on a des retours positifs une fois qu'on présente ce travail-là d'enseignants qui ont vraiment envie d'essayer aussi travailler là-dessus. Et puis peut-être l'expérience la plus concluante, c'est celle qu'on a menée à Metz le jeudi 2 octobre. On était à Metz toute une journée avec des enseignants où on a travaillé sur la gestion de conflits. Comment est-ce qu'on gère un conflit prof-élève? Donc là, on travaillait à partir de vidéos de Néopass. Et puis après, on parlait sur justement comment ça se passe nous dans nos classes quand on se prend la tête avec un élève, un groupe d'élèves, et puis qu'à côté, on n'arrive plus à enseigner ce qu'on voulait enseigner. Et ce qui ressort de ces journées, parce qu'on prend toujours un temps pour évaluer après avec les enseignants ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils ont eu le sentiment de perdre leur temps ou pas, ou est-ce que avec quoi ils repartent. Moi, j'aime bien leur demander quelles sont les quelques idées avec lesquelles vous repartez à la fin de la journée. Tous ont eu un moment, enfin, on dit qu'ils ont eu cette pause qui leur a fait du bien, c'est qu'ils ont pu découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir des difficultés. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est que c'était intéressant d'échanger avec un autre collège aussi, donc des enseignantes. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ils ont apprécié le fait que... Donc, ils nous ont perçus comme formatrices. On n'a pas ce statut-là auprès de nos collègues dans l'établissement où je travaille. Mais là, ils nous ont vus comme formatrices, mais en même temps enseignantes sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est aussi avec eux. Bon, moi, j'ai mes 18 heures de cours. Donc, je suis avec eux aussi... dans les mêmes situations de classe. Et donc ils ont apprécié ça, c'est de pouvoir parler avec des formateurs qui sont sur les mêmes difficultés qu'eux. Et d'avoir du temps pour découvrir ce que faisaient leurs propres collègues dans les classes à côté. En tout cas, ils sont repartis sur l'idée qu'ils aimeraient bien monter ce même genre de travail dans l'établissement.
Alors, on va redonner la parole, mais peut-être Marc, essayons de se dire, moi je suis chef d'établissement, on a parlé de l'importance du rôle du chef d'établissement, vous êtes dans un établissement donc labellisé REP+, nouvelles organisations, nouveaux problèmes, nouvelles ressources, nouveaux obstacles, racontez-nous de votre point de vue comment ça se passe chez vous, à la fois état des lieux, perspectives, demandes, recherches, questions que se pose un chef d'établissement. Et encore une fois, on a le temps de s'installer dans un échange et puis on donnera la parole à la salle pour réagir ensuite.
Alors, REP+, comme Elsa Triolet, d'ailleurs, qui était le support de l'intervention précédente, le collège Elsa Triolet, j'aimerais juste avant réagir parce que ça me fait écho. Les trois vidéos qu'on vient de voir, les trois extraits qu'on vient de voir, sur la question de la place des préfets, sur la question du professeur qui se sent démuni face à une situation, la demande qu'on attend de lui, sur la question des rituels. En fait, les trois me font écho. La question du préfet, moi je suis dans l'établissement donc depuis un an maintenant, il y avait quatre préfets qui également avaient énormément de mal à exister, à être reconnus pour deux raisons. Je vais faire très simple, je vais aller très vite. Une raison, je dirais, qui vient d'en bas ou qui vient des pairs, c'est-à-dire un manque de reconnaissance, un manque parfois ou un refus tout simplement de la notion même de préfet, des postures de rejet qui pouvait être exprimé, qui avait même été, avant que j'arrive, exprimé assez durement envers certains. Et puis, l'autre raison, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi que la commande de l'institution, je reprends là leur lettre de mission, qui était extrêmement vaste, qui abordait plein de sujets, qui en fait leur faisait reposer sur leurs épaules une multitude de missions différentes, et qui fait que, en étant préfet, ils répondent, je dirais, à la demande du principal, de l'ex-principal, mais en réalité, ils n'ont pas les moyens de s'investir et de coordonner tout ce qu'on leur demande de coordonner. Donc ils sont coincés entre cette double injonction, celle, je dirais, de l'institution et celle de la salle des profs. Et c'est dur d'exister. Et je vois bien, sur les quatre préfets, je dirais, il y en avait deux qui ont investi un espace, qui ont été coordonnateurs de certaines actions, et puis deux autres qui n'avait de préfet que le statut, finalement, ou que la lettre de mission. Et qui avait du mal. Après, c'est aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que pour exister en tant que préfet ou coordonnateur, il faut aussi une certaine capacité à emmener les équipes et puis un intérêt pour le sujet sur lequel vous êtes mobilisé. Du coup, la disparition des préfets et leur remplacement par des coordonnateurs de niveau dans l'établissement, et l'idée vient pas de moi, puisqu'elle vient du collège Lamartine, de ma collègue Dominique Didier, qui est un des 4 et plus du Rhône. On en a profité pour multiplier les coordonnateurs. Plutôt que d'avoir 4 coordonnateurs de niveau avec des missions presque trop larges, pour un professeur qui, en plus de ça, assure un service normal, on a multiplié les coordonnateurs, on l'a fait dans nos 2 collèges, les propositions spontanées se sont multipliées également. J'ai un coordonnateur HDA, mise en place du HDA, j'ai un coordonnateur sur la mise en place du futur cycle 3, CM1, CM2, 6e, j'ai un coordonnateur pour tout ce qui est PDMF et stage. On est sur des missions bien identifiées, portées par des collègues que ça intéresse, qui ont un vrai projet autour de cette mission. Et donc l'idée de coordonnateur, du coup, elle devient légitime. Elle existe, les collègues y répondent, et on a quelqu'un qui organise, qui pilote, qui définit un calendrier, qui propose des objectifs et qui amène le reste des équipes à adhérer. On est plus sur cette relation, cette idée que le préfet est un petit peu, parce que c'est aussi ce qui avait été dénoncé, le relais, entre guillemets, de la hiérarchie, voire l'œil de Moscou, dans le discours de certains. La question qui se posera, c'est au niveau de l'institution, puisque l'institution commande 4 coordonnateurs de niveau. Donc, il va falloir articuler la demande de l'institution, 4 coordonnateurs de niveau, avec la réalité du terrain, qui est la multiplication des coordonnateurs. Bon. Je verrai comment je m'y prends, mais ça, je dirais, c'est le boulot du chef d'établissement d'arriver à articuler les 2. Le deuxième point, c'est la question, la préfète, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou la préfet, qui exprime son malaise. Je trouve ça intéressant parce que derrière ce qu'elle exprime, je vois 2 choses. Je vois une tendance qu'on retrouve presque partout à vouloir externaliser un problème. On a un problème d'élève qui n'a pas son matériel, et ce que je ressens derrière tout ça, c'est que l'équipe, finalement, lui, refile le bébé. Et elle se sent, parce qu'elle a besoin de légitimité, elle se sent obligée de s'en emparer et de trouver la solution. Et donc forcément, elle est démunie, forcément, elle rentre dans un échec, d'où sa colère, etc. Et c'est d'ailleurs un moment abordé, on lui dit, mais pourquoi les autres, ils ne l'ont pas fait avant toi? Ben oui, si eux, ils n'y sont pas arrivés. Mais voilà, cette tendance qu'on a souvent, quand on a un élève qui pose problème dans le groupe, dans la classe, à vouloir externaliser la solution, par un dispositif ou un autre, c'est-à-dire à sortir le problème de la classe et à le refiler à quelqu'un d'autre. C'est souvent une tendance. Alors, on trouve des volontaires, parfois, pour essayer de résoudre le problème, mais est-ce qu'on le résout vraiment? Et on voit bien que à travers cet exemple et ce malaise qu'elle exprime, que finalement, la solution externe, elle n'est pas toujours et pas souvent la bonne, quoi. Parce que l'élève, de toute façon, il va revenir en classe. Et puis, le troisième point, c'est la question des rituels. Le dernier débat qui a lieu entre les profs, là, où on voit bien la difficulté, on est tous d'accord sur le plan théorique pour dire qu'il faut mettre en place des rituels, parce que ça donne un cadre, ça sécurise, ça donne une lisibilité, c'est bien pour tout le monde, et en même temps, la tentation individuelle de fermer sa porte, justement, comme le dit un collègue, pour au moins lui être tranquille. De se désolidariser, pas volontairement, mais de fait, parce que lorsque on croit que soi-même on y arrive mieux avec sa façon, on laisse les autres tout seuls, et donc forcément à un moment le rituel disparaît, et comme tu le disais, les élèves prennent le pouvoir, parce que s'il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus de rituels, il y a des failles, il y a des espaces dans lesquels les élèves vont s'insérer, quoi. Voilà, c'est ces trois éléments. je voulais, enfin, qui me faisait réagir, qui me faisait vraiment écho sur ce qu'on peut vivre hein, dans beaucoup d'établissements. Pour élargir un peu par rapport à la place du pilote, non mais.
Non, juste sur les préfets, je vous ai montré au tableau un travail qu'on avait fait il y a quelque temps avec Anne-Marie Benayoun du Centre Alain Savary, qui n'est pas là aujourd'hui, sur la question de l'organisation du travail des préfets, comprendre le travail des préfets. Et quand j'entendais le résultat du travail de Sylvie, on voit bien toutes ces marges. Hier, on parlait des métiers à inventer, hein, les métiers nouveaux, les métiers qui n'ont pas d'histoire. Et donc, il faut comprendre... Dans un prescrit polymorphe, voire contradictoire, comme ça a été dit, il faut comprendre l'étendue de tout ce qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire. Et c'était magnifique dans les images que nous a proposées Sylvie. Et c'est vrai que, voilà, cette question de trouver la cartographie de toutes les choses qu'il y a à faire et comprendre que les équilibres des uns ne sont pas les équilibres des autres et pouvoir en discuter, comme a dit Sylvie, la main tendue, c'est effectivement ça qui fait ressource pour qu'on comprenne que c'est pas juste... préfet égale collabo, mais comment est-ce qu'on on arrive à organiser un certain nombre de choses différentes dans l'établissement avec des métiers qui mutent. Hein, moi, j'insiste sur cette idée que les métiers d'enseignement sont des métiers qui mutent aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui sont à prendre en charge. Et du coup, si on veut rompre, mais Marc va nous en parler, si on veut rompre avec cette idée de « il y a nous, les profs, et eux, l'administration hein, », et à chaque fois qu'on a un problème, on va chercher à l'externaliser. Et du coup, ben voilà, comment on ne peut pas s'en sortir, parce qu'on peut inventer 45 métiers de spécialistes de la prise en charge de ça, et on sait très bien que ça, on va juste dans le mur avec ces choses-là, et que la difficulté, c'est bien l'inverse. Alors... Concrètement, dans votre établissement, la mise en place de ces nouveaux dispositifs, de ces nouveaux espaces, de ces nouveaux horaires, de ces nouveaux cadres, quelles questions, quelles ressources, quelles avancées, quelles difficultés ?
Alors, ça renvoie en fait à la place du pilote, hein, tout simplement. Alors, je vais peut-être pas, je sais pas si vous en avez parlé hier, de l'articulation premier-second degré, les difficultés que ça pose. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui.
Non, mais c'est forcément le sujet d'aujourd'hui.
Bon, d'accord. Alors donc j'en parle. Donc là, je vais essayer d'être bref, mais enfin, on va être obligé de passer par, une dimension technique. Hein. On a du côté du premier degré 18 demi-journées, 9 journées, qui correspond à 10% de l'année scolaire, libérées et remplacées pour les enseignants. Donc ça veut dire, le « et remplacé » est important parce que ça veut dire que vous avez sur les 4 et plus du Rhône l'équivalent de 19 temps plein qui sont spécifiquement dédiés à ça, qui sont des remplaçants REP+, plus, quoi, spécifiquement dédiés au remplacement. Donc il faut qu'ils soient occupés à l'année parce qu'ils sont payés à l'année. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont à la demande. Il faut donc qu'ils aient un service du 1er septembre au 4 ou 5 juillet, je ne sais plus quand on s'arrête cette année. Donc, à la fois sur les 4 réseaux concernés, avec des moments de regroupement où ils vont être concentrés sur un réseau de manière à permettre à ce réseau d'avoir 19 PE libérés en même temps, etc. etc. Donc toute une organisation, une organisation lourde et pesante pour le premier degré, qui est liée au fait qu'on a un remplacement uniquement en hors poste, pour prendre un langage second degré, mais avec une organisation derrière très très lourde. Ça conditionne plein de choses, ça veut dire que au niveau d'une école, ils savent que telle semaine, ils vont avoir 4 remplaçants, mais ça veut dire 4 remplaçants par demi-journée, donc pour chaque demi-journée, il faut que les 4 profs libérés aient du contenu à faire, etc. Ça, c'est l'organisation premier degré. L'organisation second degré, vous la connaissez, c'est 1h30 en moyenne. Enfin, c'est une pondération de 1.1, exactement. C'est-à-dire l'heure devant élève est pondérée à 1.1. Ce qui fait qu'avec 16h30 devant élève, pondéré, vous arrivez à 18, enfin, vous êtes dans votre service de 18h. Concrètement, ça se traduit par 1h30 par semaine pour les enseignants du second degré disponibles pour un temps de concertation, formation, etc. Donc c'est comme ça qu'on l'a traduit dans nos emplois du temps. L'heure et demie, elle apparaît dans les emplois du temps. La circulaire dit qu'elle n'est pas, elle n'a pas vocation à être comptabilisée, donc on ne demande pas aux profs d'être au garde-à-vous présent de 13h à 14h30 en ce qui me concerne le mardi. Mais on offre un espace. Alors cet espace existait dans certains établissements auparavant, ça s'appelait l'heure blanche, bleue, verte, enfin bon, toutes les couleurs y passaient. Chez nous, elle n'existait pas. Le besoin existait, mais l'heure n'existait pas dans notre emploi du temps. Donc arriver à faire coordonner l'heure et demie hebdomadaire avec ce que j'expliquais avant, ces demi-journées remplacées dans le premier degré, c'est compliqué. Le choix qu'on a fait sur l'établissement et sur d'autres, hein, c'est que quand on veut faire un travail commun, premier et second degré, sur une formation, sur un temps d'échange, premier degré, ils arrivent parce qu'ils sont remplacés, second degré, sur des formations identifiées, ciblées, eh ben, les profs sont en stage. En gros, je libère. Pas le choix. Je peux pas... Techniquement, il n'est pas possible de transformer une heure et demie en demi-journée d'une façon ou d'une autre. Donc, je considère que c'est un stage et je libère les professeurs concernés. C'est ce qu'on a fait fin septembre. Il y avait une semaine groupée avec une formation sur les petits lecteurs dont Noélie a peut-être parlé hier, je ne sais pas. Les profs de lettres étaient obligés, si on peut dire, de s'y inscrire pendant les 4 demi-journées concernées, ils étaient en stage, tout simplement. C'est le seul moyen qu'on a trouvé concrètement pour arriver à articuler des temps communs, premier, second degré. Alors après, là je parle de temps où on est sur une formation, donc ça veut dire on est sur de l'organisation. Après, sur le ponctuel, c'est-à-dire sur la mise en place de binômes premier, second degré, prof de collège, là on est sur du gré à gré. C'est-à-dire qu'on a mis en place sur le réseau une double organisation. La première, c'est que le volume d'heures surnuméraires, parce que nous on a la chance d'avoir des surnuméraires d'ailleurs, comme à Triolet, je crois. Ce volume d'heures qui autrefois était... c'était des postes à profil, il y avait un professeur qui avait une décharge de 9 heures surnuméraires qu'il effectuait selon les réseaux, soit en école, soit dans le collège, enfin bon, c'était des heures en plus, quoi. Je sais pas si ça perdurera, mais bon, pour l'instant, on les a toujours. Ce volume d'heures, on a choisi de le répartir sur l'ensemble des profs de 6e en lettres et en maths. Donc tout prof qui fait du français ou des maths en 6e va se voir dans son service attribuer 2 à 3 heures de surnuméraire qu'il devra faire en école. Donc, l'idée étant d'obliger les collègues de maths français à créer du lien avec les écoles du réseau. La contrepartie, c'est comment faire venir les PE au collège. Donc là, on est, ce que je disais, sur le gré à gré, c'est-à-dire que les PE ont l'emploi du temps des professeurs et ils vont devoir trouver des temps où le professeur avec lequel il souhaite travailler est libre pour une heure d'échange, suivi d'un cours en 6e, par exemple. Mais ça, on ne peut pas l'organiser à l'échelle du réseau, ni même à l'échelle du collège. Ça ne peut se faire que de gré à gré.
Est-ce que dans la discussion que vous avez avec l'IEN, du coup, cette perspective-là, elle fait que l'IEN va le retenir dans le temps de service, dans le temps de concertation, dans le 24+3 des enseignants du premier degré?
Tout à fait. C'est même pas au niveau de l'IEN, c'est au niveau du directeur d'école que ça va se jouer, puisque c'est école par école que ça va se faire.
Mais c'est l'IEN qui va le faire rentrer dans sa compta, quoi.
Alors, pour préciser, on a, au niveau du pilotage, je dirais, on a un binôme IEN principal qui fonctionne très bien. Je sais que c'est pas le cas dans tous les réseaux. Chez nous, c'est le cas.
Presque tous les réseaux, c'est comme ça, hein. Non ? Enfin, bon.
Donc, deuxième point toujours technique, mais je vais quand même l'évoquer parce que c'est important pour l'avenir. Et puis, je dirais, pour le pilote, c'est souvent un problème qui est extrêmement chronophage. C'est le hiatus qu'il peut y avoir parfois entre la commande de l'institution et puis la réalité du terrain, ce que les équipes souhaitent faire ou pas. Et la difficulté à articuler les deux. Je prends l'exemple du 1.1, la mise en place de ce fameux 1.1, l'heure et demie. Quel sens on lui donne ? Est-ce une décharge ? C'est ce qu'une partie des équipes souhaiterait. Est-ce une décharge, c'est-à-dire une réduction du temps devant élèves compensée par un temps institutionnel de concertation ? ou est-ce une pondération au sens une rétribution d'un travail supplémentaire? En termes d'organisation, c'est pas du tout la même chose. Actuellement, comme on est sur une préfiguration et que ça s'est fait dans le courant de l'hiver de manière assez rapide, actuellement on est entre les deux. C'est-à-dire que le financement de ce 1.1, il est moitié en HSA, moitié en heure poste. C'est-à-dire que moitié en heure poste, c'est-à-dire moitié en décharge, moitié en HSA, moitié en rétribution supplémentaire. Et avec cette difficulté à donner du sens et puis à clarifier le sens qu'on donne aux équipes. Quoi.
Juste donc, vous pouvez préciser en quoi le fait que le rectorat paye ses heures en heure sup, ça a un impact sur le travail collectif, parce que c'est un point qui a l'air extrêmement technique, mais qui est très important. En quoi le fait que le rectorat décide, je ne vais pas dire choisisse, de payer ça en heure sup, ça a un impact sur la manière dont c'est vécu et la manière dont vous allez ensuite pouvoir ou pas organiser le travail collectif. Parce que c'est une discussion qu'on a eue dans le cadre du travail, y compris avec la DGESCO, sur quelles sont les consignes qui sont données au rectorat, sur comment vous organisez le service des enseignants REP+, qu'est-ce que vous payez en heure poste et qu'est-ce que vous payez en heure sup. Est-ce que vous pouvez préciser
oui, mais
pourquoi ça pose problème?
C'est bien pour ça que je précise le sens. Décharge ou pondération, ça veut dire concrètement, pour les enseignants, et je disais que dans notre établissement, il n'y avait pas d'heure blanche. Donc c'est une nouveauté, cette heure et demie qui apparaît dans l'emploi du temps. Qui n'existe. Dans les établissements où ça existait, cette idée était installée, c'est peut-être plus facile. Mais dans l'établissement où ça apparaît en même temps que le 1.1, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que pour les enseignants qui n'ont pas une décharge très forte de leur temps devant élèves, ils le voient et ils le perçoivent comme un temps de travail supplémentaire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils le refusent, hein, puisque ce temps de concertation était réclamé par ailleurs. Mais c'est quand même perçu comme un temps de travail supplémentaire et parfois c'est rappelé. Donc ça crée... Alors il ne faut pas s'enfermer dans... Il faut en être conscient. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce qu'il ne faut pas non plus stériliser le travail qu'on va avoir à faire. Mais c'est quand même un petit caillou dans la chaussure. Et là, je dirais, le pilote, quand je disais il est coincé entre les équipes et l'institution, là, on est vraiment au cœur de ce sujet. C'est-à-dire que tant que l'institution n'aura pas clairement dit le sens qu'elle donne à cette pondération et la manière dont elle la met en œuvre, une fois que la règle sera claire et fixée, ça sera plus simple. Pour l'instant, on est encore sur une ambiguïté qui fait que, bon, on préfigure, hein, on le savait en préfigurant qu'on était sur une construction. Mais voilà, ça fait. Mais ceci dit, c'est pas ça qui a empêché, parce que c'est quand même l'essentiel, je pense, aujourd'hui, c'est pas ça qui a empêché le fait que les équipes s'emparent de ce temps. Et s'en empare réellement sur un travail concret.
Dernière question peut-être avant qu'on donne un bref tour de parole à la salle. Sur ces contenus de travail dans ces temps, qu'est-ce qui vous semble être comment nourrir, comment apporter, qu'est-ce que vous pensez nécessaire, utile, qu'est-ce qui vous pose problème sur le fond, quoi?
Alors, j'allais y venir, non, avant même la question.
On en avait parlé.
Je dirais il y a deux fils rouges. Sur le contenu, il y a la pédagogie, puisque c'est quand même l'esprit même de la refonte de l'éducation prioritaire, c'est la plus-value pédagogique, les pratiques pédagogiques, l'interrogation sur la manière de mieux faire réussir les élèves. Je dirais que cette refonte arrivait au bon moment, et dans notre établissement à double titre, l'enquête PISA de l'an dernier, qui, au moment des assises, hein, nous est tombé dessus collectivement, qui a quand même profondément interrogé les équipes. Moi, c'est-à-dire, c'est la quatrième enquête PISA que je vois sortir, hein, je crois. C'est troisième ou quatrième. Je me souviens des réactions lors de la première enquête PISA, qui était vraiment une réaction de rejet, voire de... on fait lire une notice IKEA aux élèves. Je me souviens de commentaires de collègues. On fait lire une notice IKEA aux élèves et puis on teste leur niveau avec ça. Bon... Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, le résultat de l'enquête PISA ont réellement, je trouve en tout cas, provoqué une vraie prise de conscience, une vraie interrogation collective. Et puis le deuxième point, alors là c'est local, c'est que on a eu des résultats au brevet qui n'étaient pas très bons sur le collège, en grande partie à cause de notre CCF, c'est-à-dire de notre manière d'évaluer. Donc c'est une prise de conscience à la fois collective et locale qui permet que, enfin, d'amener une vraie interrogation pédagogique. L'autre plan qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect professionnel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce temps de concertation formation, il doit être l'occasion de professionnaliser la réflexion. J'ai coutume de dire que l'enseignant se sent souvent, à l'inverse de l'homme politique, il se sent souvent coupable, il culpabilise beaucoup, mais pas responsable. Or, moi, je voudrais pouvoir inverser, c'est-à-dire responsabiliser le questionnement et déculpabiliser en même temps. C'est-à-dire qu'on rentrerait dans un questionnement responsable, professionnel, sur les gestes, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo, et on sortirait de ce questionnement ou de cette remise en question personnelle, je suis pas bon, j'y arrive pas, etc., etc. Voilà. Donc voilà, pour moi, les deux fils rouges qui doivent guider le contenu, c'est ça. Actuellement, on est sur un mois et demi de travail, je dirais, les deux se dessinent. J'ai laissé, à part certains moments où on a imposé le contenu, mais globalement, on est sur du 2/3, 1/3 laissés aux équipes sur des besoins identifiés par l'équipe, et puis 1/3 qui viennent de la direction. Je signale quand même, parce que on est vraiment au cœur du sujet. Je parlais tout à l'heure des coordonnateurs avec des missions spécialisées. Il s'est monté cette année au sein du collège un groupe qui s'appelle groupe d'accueil. Donc en gros, ce sont 4 professeurs qui ont souhaité accueillir leurs nouveaux collègues, puisqu'on a quand même un turnover assez important dans ce type d'établissement. Et chaque année, on a des collègues qui arrivent là un peu contraints, un peu à reculons, avec sur le jeu des mutations, etc. Et qui vivent mal pour certains, et très mal même parfois, leur arrivée dans ce type d'établissement. Donc l'idée était de les accueillir, de les aider, de les rassurer, de les tutorer, etc. Donc 4 collègues ont choisi de créer ce groupe d'accueil et se mettent donc à travailler sur cet accueil. Donc là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, d'emblée, quand ils m'en ont parlé, je me suis mis en retrait. Je connais Néopass, je les ai invités à utiliser Néopass, c'est-à-dire l'usage de la vidéo, le regard entre pairs, l'auto-analyse. Mais pour moi, il est évident que le regard du chef d'établissement ne doit pas s'immiscer là-dedans, parce que ça fausse tout. J'y vois aucune rébellion cachée dans leur démarche, personnellement, ça fausse tout. Parce qu'on est malgré tout toujours dans une relation ambiguë avec la hiérarchie, avec le regard du chef, etc. Ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse, voire que je me mets totalement en retrait. Mais je conçois mon rôle non pas comme celui qui va, de manière injonctive, dire ce qu'on doit faire et pas faire. Je peux être même parfois un peu sanguin dans mes réactions. Je crois que mon rôle, il est de rappeler, de poser les problèmes, de poser les questions, voire de les reformuler sur l'évaluation, par exemple, de manière insistante, s'il le faut. Mais au moment où les équipes s'emparent de la question et choisissent de travailler dessus, là, je me retire. C'est-à-dire que le cadre que vous réclamiez tout à l'heure, c'est ce besoin qu'ont les équipes, et je le crois vraiment, d'avoir une lisibilité de ce qu'attend la direction dans laquelle on va, c'est à moi de le faire. Mais après, sur la mise en œuvre, je n'ai pas la solution à tout. Je ne suis pas et je ne dois pas être la solution à tout. Donc c'est cet équilibre entre, je dirais, le moment où il faut dire aux gens, là il y a un problème. Alors il y a des fois c'est trop tôt, puis il y a des fois c'est mûr. Et si c'est trop tôt, il faudra le redire plus tard, d'une autre façon, ou le rappeler. Et puis quand c'est mûr, les équipes s'en emparent spontanément. Il y aura dans une équipe de profs toujours un ou deux qui vont se dire, oui, là, on va essayer d'inventer quelque chose comme vous l'avez fait de votre côté.
Et du coup, là, qu'est-ce qui peut, par rapport au témoignage des deux collègues, puisque la question là, sur laquelle on voudrait shooter, c'est Voilà. Qu'est-ce qui vous aide, vous, en tant que chef d'établissement, dans cet ordinaire du travail, une fois que vous avez posé le cadre, indiqué la direction? Et donc, si vous dites, moi, je dois me retirer à ce moment-là, votre demande, votre besoin en termes de pilote, il est d'avoir quoi à ce moment-là qui puisse venir soutenir l'activité des profs? Si tant est que vous soyez d'accord avec ce qu'a dit Caroline à un moment donné, c'est que l'auto-analyse, on met un groupe de profs avec un outil même magnifique comme Neopass, ça suffit pas. Alors, votre besoin, il est d'avoir quoi à ce moment-là?
Alors, le besoin, il est d'avoir des ressources externes ou internes, mais à former. Hein. C'est-à-dire que, des compétences, des expertises qui viendraient appuyer les équipes. Alors, ça peut être l'IPR sur certains sujets. Je veux dire, si on prend la question de l'évaluation, ça peut être l'IPR, l'expertise. Si on prend Neopass, on peut demander au centre à la Savary, par exemple, de nous envoyer un expert. Mais bon, on a un besoin d'experts externes, mais je dirais, là aussi, attention au piège de croire que cette intervention extérieure va tout résoudre. Moi, je crois fondamentalement que le changement de culture, il faut l'accompagner, il faut parfois le pousser un peu, il faut convaincre, il faut amener, mais le changement de culture, il viendra que des équipes. Donc, les regards extérieurs, l'expertise, elle viendra peut-être aider, accélérer, diriger, mais elle remplacera pas le travail dans les équipes. C'est ce que je pense. Après,
ouvrir des possibles, non? Ça serait. Enfin, je trouve
ça. On peut le dire comme ça. Ouvrir les possibles.
Du coup, je pense que c'est la question aussi de. On parle de ces formateurs et plus, aussi de la formation de formateurs. Il y a un référentiel de formateurs qui est en conception au niveau du ministère. Et tout à l'heure, ça a été dit par les unes ou les autres. C'est cette question de quel type de compétences on a besoin à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est un père. Caroline, elle a dit l'importance de ça, mais c'est un père qui a des capacités à organiser le débat au sens où vous l'avez, enfin, Sylvie l'a explicitement posé, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse faire discuter du métier, qui puisse nourrir la controverse, qui puisse permettre aux gens d'oser dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi », qui offre un cadre sécurisant, etc., etc. C'est des compétences particulières, qui doit les avoir, comment, etc. Je pense que c'est des questions qui sont encore en discussion. Hein. On est un peu à la rue sur le temps, mais est-ce qu'il y a des avant qu'on se mette en pause bien méritée, est-ce qu'il y a des réflexions, réactions que vous avez envie de donner publiquement? Encore une fois, c'est soit pour demander des précisions, soit pour faire état d'une réflexion, d'un point de vue, sentez-vous tranquille.
Non, je voulais juste aborder une question. Enfin, on le voit en filigrane, c'est en filigrane partout. Je trouve qu'il y a une question en filigrane qu'on n'a pas vraiment posée de manière explicite et qu'il faudrait peut-être qu'on s'y attelle vraiment. C'est la question du rapport avec la hiérarchie. Enfin, il me semble que ça c'est complètement là sous-jacent. C'est-à-dire, il faut que la direction soit partie prenante, c'est une condition indispensable. Vous dites, il faut que la direction soit pas là, c'est une condition indispensable pour qu'on puisse se parler. Donc, je trouve qu'il y a des peut-être des contradictions ou pas, ou des complémentarités. Enfin, il y a des choses à expliciter dans le rapport qu'on a tous avec la hiérarchie, méfiance, confiance, besoin, rejet. Tout ça me semble là et il me semble qu'il faut se poser à un moment donné.
Comme c'est bien organisé, c'est juste après. Quelqu'un d'autre? Merci à vous. Et après, on est en pause. Qui veut des trois? Vous reprenez la main.
Non, je disais alors, il n'y a pas de formateur. Donc ça répond à la question, donc j'en ai pas parlé. Sur la place de l'IPR, je précise, hein, ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais parce que j'ai cru qu'on m'interrogeait sur ma place de principale et comment je concevais mon rôle dans cette mise en place. Je vous rassure, l'IPR, Madame Lacmitte, est très présente sur le réseau. Après, la question de la hiérarchie. La réponse est entre les deux. C'est-à-dire que, je reprends mon dernier propos, il faut que la direction ou le groupe de pilotage fixe la ligne, fixe le cadre, soulève les problèmes quand il en perçoit, propose des solutions, c'est évident. Mais après, sur ce qui se passe concrètement entre pairs et sur cette acculturation, parce que c'est de ça dont il est question, ça peut pas être injonctif. Donc il faut aussi avoir la modestie à des moments de se mettre un petit peu en attente ou en retrait. Ça veut pas dire qu'on s'en désintéresse, ça veut pas dire qu'on ne regarde plus ce qui se passe. Ça veut dire que simplement, il faut laisser mûrir, il faut laisser agir les professionnels, tout simplement. À mon sens.
Je pense qu'on est, c'est pas sur les mêmes temps qu'on demande la présence. Oui. Moi, ce que je disais, que la hiérarchie soit pas présente, c'est sur le temps où on se réunit entre profs. J'ai rien contre la présence de la hiérarchie, et je pense que de toute façon, un chef d'établissement, il a besoin d'être là, de donner le cadre. Mais c'est plus en amont. Je pense que la direction doit être présente pour favoriser, enfin permettre ce temps de travail. Nous, il a fallu qu'on bataille et qu'on nous autorise à réunir, et même, on a même obtenu un moment où le vendredi soir, on nous a concédé le vendredi soir, on finit pas à 5h30 les cours, mais à 4h30 pour pouvoir se réunir, nous. C'est-à-dire que personne n'a cours pour libérer les enseignants qui sont volontaires pour venir. Donc c'est là qu'on a besoin de la direction. Mais bon, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une nouvelle principale qui est arrivée et qui va dans notre sens et fait tout pour que ça continue et qu'on puisse travailler. Donc la direction favorise aussi la durabilité aussi.
Oui, l'œil de Moscou.
Oui, si. Oui, voilà, d'accord, mais sans que ça soit négatif, je pense que notre chef d'établissement, il a quand même un rôle de notation sur les enseignants. Et quand bien même beaucoup de chefs d'établissement ont plein de qualités relationnelles, je trouve quand même qu'on doit avoir ces espaces de travail où on est entre nous, et sans que ça soit négatif le dire. Hein.
Rapidement.
Voilà, on va poursuivre cette discussion après la pause. Sylvie.
Rapidement dit. Je pense qu'on a tout à gagner, tout intérêt également à dépasser cette idée de rapport hiérarchique. C'est-à-dire, je me comprends, hein, que bien sûr on se réfère à un cadre, à des injonctions, à une ressource également, hein, de la part du chef d'établissement. Je pense qu'on peut en effet conserver, maintenir ce rapport. Mais qu'on fasse référence au chef d'établissement comme quelqu'un qui supervise tout le temps, qui contrôle, ou qu'on fasse également référence et qu'on ait cette représentation, cette fausse représentation du préfet des études comme collaborateur du chef d'établissement, je pense que là, il va falloir dépasser justement ces fausses idées pour aller vraiment sur le réel du travail. Et je pense que on pourrait construire ce travail collectif à plusieurs. Voilà, je pense que c'est le défi.